quand même avancé, quand même. Et nous voici au XVIIIe siècle. Alors, le XVIIIe siècle, c'est, les anciens, ceux qui étaient là vont pouvoir vous le dire, quelles sont les deux grandes idées du bilan de la synthèse. Les deux choses importantes au XVIIIe siècle, c'est le siècle.
La controverse, c'est ça?
Alors, le siècle, oui, des controverses.
Le jansénisme et le christianisme qui a entraîné la séparation de la spiritualité. Alors,
donc, première chose, le XVIIIe siècle, c'est le siècle de très grandes controverses religieuses, surtout autour du jansénisme. Hein. Le quiétisme, c'est fin 17e. Hein. Mais surtout, donc, la grande controverse du jansénisme qui continue et qui empoisonne tout le climat ecclésial. Vraiment, ça empoisonne. Ça empoisonne pour deux raisons. Parce que d'abord, vous avez un groupe de gens qui vont toujours rester très, très attachés à leurs idées et qui, malgré les condamnations dont ils seront l'objet, vont jamais en démordre, considérer toujours que c'est eux qui ont raison. Bon. Et puis aussi, c'est la permanence dans les esprits, en tout cas de tous ceux qui sont touchés par le jansénisme, d'une conception de Dieu et puis d'une crainte de Dieu et du coup, en conséquence, d'une vie sacramentelle appauvrie parce que on n'est jamais digne des sacrements et donc on reste à distance des sacrements. Donc première idée, le siècle des controverses religieuses et le siècle des Lumières, évidemment. Hein. Alors, les Lumières, c'est là-dessus qu'on s'était quitté, les Lumières n'affectent que les élites sociales. Hein, quand on regarde le peuple chrétien, quand on regarde les masses, elles demeurent croyantes, malgré quelques signes de détachement relatif. Si vous voulez, il y a un historien très célèbre qui s'appelle Michel Vauvel qui a étudié, c'était très intéressant en soi, il a étudié pour la Provence, il s'est spécialisé sur la Provence, et il a étudié tous les testaments. Et s'est aperçu que plus on a avancé dans le temps, et moins on signalait dans les testaments de demandes de messes longue durée, j'allais dire, de moins en moins de fondations, d'œuvres pies, etc., etc. Et donc il en a conclu, à travers ça, parce qu'il a étudié des très gros ensembles, un certain détachement relatif au fur et à mesure qu'on entre dans le XVIIIe siècle. Bon, c'est un indicateur. Donc, quelques signes de détachement relatif, mais il reste qu'au XVIIIe, on est dans une époque de vie chrétienne généralisée. Sans innovation ni créativité cependant. Sans grand dynamisme aussi. On bénéficie, si vous voulez, de la diffusion imprimée d'œuvres des siècles précédents. Hein, vous verrez peu de très grands maîtres spirituels du XVIIIe. Donc peu de créativité, mais c'est vrai qu'on utilise ce qui a été fait avant. Alors, du côté du peuple chrétien, la prédication, les missions populaires, les nombreuses dévotions nourrissent efficacement le peuple chrétien. Exemple, l'adoration du Saint-Sacrement, très généralisée. La dévotion à l'Immaculée, le chemin de croix. Soit dit en passant, ce sont des dévotions que dénoncent les jansénistes. Opposés à ça. Mais vous avez un certain éloignement qui se produit entre la piété et la liturgie. Donc vous voyez, c'est, toutes ces œuvres de piété mobilisent les foules, mais on ne peut pas dire que ce soit un siècle riche dans la perception de l'esprit liturgique. À ce niveau-là, les jansénistes sont peut-être plus attentifs. C'est vrai. Et puis, vous avez un très bon indicateur de ça. Un indicateur paradoxal, c'est la Révolution française. Et une Révolution française qui va gagner d'autres pays, hein, parce que les armées de la Révolution vont exporter l'antichristianisme de la Révolution hors des frontières françaises. Et quand on regarde la persécution, alors on peut voir dans les deux sens. On s'aperçoit que les gens qui ont été prêtres, qui ont été religieux, qui ont été vraiment débaptisés, deviennent des persécuteurs, donc ça pose une vraie question. Mais inversement, on va voir quantité de martyrs, d'hommes et de femmes, confesseurs de la foi, abritant au péril de leur vie des prêtres de passage chez eux. Donc vous voyez, la révolution est un indicateur à la fois d'un christianisme qui, chez certains, n'était plus qu'un christianisme de façade, très formaliste, et en même temps d'un christianisme qui va pousser certains à l'héroïsme du martyr. Fin du XVIIIe siècle. Alors, il n'y a pas de très grand nom. Vous voyez, je vous ai mis le père de Caussade, jésuite, l'auteur de l'abandon à la providence divine. On a vu la semaine dernière que le texte était peut-être de Madame Guyon, que lui l'aurait repris, qui invite à une dépendance continuelle de l'Esprit de Dieu et de sa grâce. Un texte très beau, hein, qui est encore édité aujourd'hui, qui nourrit. Donc un texte vraiment, l'abandon à la providence divine, le terme dit bien ce dont il s'agit. Hein. Alors évidemment, la frontière avec le quiétisme peut être franchie, mais ce n'est pas le cas du père Caussade. Donc une dépendance continuelle de l'Esprit de Dieu et de sa grâce, qui fait que l'âme ne cherche plus en soi-même à s'occuper de Dieu, comme autrefois, suivant son propre choix, d'une manière sensible, consolante, satisfaisante, mais à se tenir devant lui dans une simple disposition, à agréer de moment en moment tout ce qu'il voudra ou ne voudra pas, en un mot, à se tenir dans ces simples attentes que le roi prophète a si bien exprimées par la comparaison d'une servante qui tient toujours les yeux attachés sur sa maîtresse. C'est évidemment du psaume de David qu'il s'agit, hein. Comme une servante à la main de sa maîtresse. Bon. Vous voyez, c'est on voit bien ce que le père de Caussade enseigne là, c'est en termes thérésiens ce qu'on appellerait l'oraison de quiétude. Dans lequel il y a vraiment une activité de l'homme, donc on n'est pas dans le quiétisme pur et simple. Hein. Vous voyez, les mots... Donc on n'est plus, l'âme ne cherche plus en soi-même à s'occuper de Dieu, donc on est sorti de cette phase très active où l'âme travaille et puis cherche à s'occuper de Dieu de manière sensible, consolante, satisfaisante. Non, on est passé dans une simple disposition à agréer de moment en moment tout ce qu'il voudra ou ne voudra pas. Alors, vous avez aussi, et ça va apparaître très nettement à la Révolution, le XVIIIe siècle, c'est l'âge où se répand le culte du Sacré-Cœur. Et l'enjeu de ça est très important, maintenant vous le comprenez, c'est le meilleur antidote qui soit au jansénisme. Vous voyez, pour nous, le Sacré-Cœur, aujourd'hui, il peut apparaître un peu connoté, quand on voit le contexte de la naissance de la dévotion au Sacré-Cœur, il s'agit vraiment de tourner le dos à cette religion très austère, mais plus que ça, qui présente un Dieu un peu terrible devant lequel l'homme est toujours en faute, en fait. Un Dieu qui écrase l'homme de sa sainteté. Là, le culte du Sacré-Cœur, on regarde l'amour de Dieu dans le cœur humain du Christ, Verbe incarné. Alors évidemment, vous savez que c'est les révélations de Parimonial, les révélations faites à Sainte Marguerite Marie à la Coque, morte en 1690, qui ont été un peu le point de départ de ce culte du Sacré-Cœur, révélation totalement centrée sur l'amour divin. Et les jansénistes vont être très très sévères par rapport à ça. Pour eux, c'est vraiment, c'est indécent, c'est absurde. Enfin, ils n'auront jamais de mots assez durs pour se moquer du culte du Sacré-Cœur. Et de leur côté, les Lumières, les philosophes des Lumières, tournent en dérision toute forme de religiosité en général et en particulier la dévotion au cœur de Jésus. On peut dire que cette dévotion a eu un impact très important sur le peuple chrétien, je dirais, en communiquant un peu une chaleur nouvelle à la religion. Elle a donné à beaucoup la soif d'une union intime avec le Christ. Dans une période où le moralisme raisonnable avait tendance à l'emporter. Quand vous voyez, par exemple, le vicaire savoyard, donc une œuvre de Rousseau qui met en scène un prêtre, et de façon assez positive. Donc, c'est les Lumières selon Rousseau. Hein. Bon, c'est un prêtre qui est... Mais c'est un prêtre, finalement, à la limite, sans le Christ. Donc, qui prêche un moralisme de bonne aloi, un bon humanisme, enfin, sympathique, mais... Bon, c'est théiste aussi, mais ça ne va pas plus loin. Donc là, on est vraiment ramené... Ça a été un peu une pédagogie divine pour ramener toute cette génération au Christ... et au Christ porteur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors il reste quand même, et ce sera mon point un peu de conclusion avant de passer à Alphonse de Ligori, que l'oraison mentale qui a été si présente, fin du XVIe et au XVIIe, qui a tellement marqué, hein, l'oraison à la fois ignatienne, l'oraison thérésienne, l'oraison de l'école française, hein, cette oraison mentale, eh bien, vous voyez, tombe un peu en désuétude à cause des dissensions, on l'a vu, hein, des controverses, et elle tombe en désuétude au profit des dévotions sensibles. Désuétude, ça veut dire, pardon, elle recule, enfin, on l'oublie un peu, on la pratique moins, voilà. Alors, il nous reste, pour parler du XVIIIe, à parler d'une très grande figure qui s'appelle saint Alphonse de Ligori, qui est un Napolitain, donc de l'Italie du Sud. Vous avez la date de sa mort, 1787. Il est fondateur en 1732 de la congrégation du Saint Rédempteur, hein, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui les rédemptoristes. Et ce fut un évêque aussi. Alors, c'est l'adversaire résolu du jansénisme. L'adversaire résolu du jansénisme. Alors, c'est un homme assez impressionnant. Vous savez peut-être qu'il est patron des moralistes catholiques, donc un théologien spéculatif, mais peut-être avant tout un missionnaire et un directeur d'âme, un pasteur. C'est un peu du fait des nécessités, si vous voulez, qui va devenir l'expert de ce qu'on appellerait aujourd'hui la théologie pastorale. Alors, je cite Eulogio Pacio qui dit ceci, « Il est l'insurpassable maître de la spiritualité pratique, affective et ascétique. » Alors, comprenez ascétique pas au sens de choses extraordinaires, mais ascétique au sens de la lutte de l'homme, hein, du combat spirituel de l'homme. Donc, pratique affective ascétique du XVIIIe siècle. Comme théologien moraliste et auteur d'une théologie morale, il a formé une nouvelle génération de confesseurs moins enclins au rigorisme extrême. Alors, c'est très intéressant, quand on regarde par exemple l'histoire des prêtres en France, l'influence de saint Alphonse de Ligori commence à se faire sentir au début du XIXe. Là, vous avez une nouvelle génération formée à l'école de saint Alphonse de Ligori. Et on voit bien le passage avec le curé d'Ars, si vous voulez. Le curé d'Ars, bon, n'a pas été formé à l'école de saint Alphonse de Ligori, mais c'est un peu contemporain de ce passage-là. Vous savez que le curé d'Ars,
on va pas dire qu'il était janséniste, mais il était très rigoriste. Et l'abbé Ballet, qui l'a formé, était plutôt de tendance jansénisante. Hein, donc, le curé d'Ars, au début, était très, très rigoureux, hein, même dans sa pratique de la confession. Et c'est avant tout sa découverte personnelle, sa vie mystique personnelle, qui va transformer à la fois sa prédication, sa confession, sa vie spirituelle personnelle, et le faire beaucoup plus parler de la miséricorde. Mais voyez, on voit bien cette génération, vous voyez. Le curé d'Ars qui a été formé, si vous voulez, pendant les années très difficiles de la Révolution française et juste après, on sent encore, vous voyez, les influences jansénisantes fortes, et puis ça bascule de son vivant, donc à partir des années 30, 40 du 19e, avec des générations où là, vraiment, l'influence de saint Alphonse de Ligorie se fait sentir. Alors, c'est beaucoup plus tôt en Italie, évidemment, hein, c'est, mettez un demi-siècle de décalage pour l'Italie, et pour le reste de l'Europe, j'avoue, je ne sais pas exactement comment ça va circuler. Alors, ce qui est important, c'est qu'Alphonse de Ligorie, comme fondateur, évidemment, va être, toute son action pastorale va être prolongée par ses fils rédemptoristes. Hein, il aura une descendance qui va, à son tour, opposer au jansénisme une spiritualité affective, marquée aussi par le style assez démonstratif de la dévotion italienne. Bon, vous connaissez les Italiens peut-être de la fin du XXe siècle et du XXIe, mais croyez qu'au XVIIe, XVIIIe, ils avaient gardé, peut-être plus encore, leur démonstrativité. Voilà. C'est des méridionaux. Alors, en même temps, c'est ça qui est intéressant avec saint Alphonse de Ligorie, c'est qu'on ne verse pas dans le sentimentalisme. Hein, c'est pour ça que c'est bien en place. Alors, c'est un homme qui a été extrêmement populaire. Je vais vous donner quelques chiffres, vous verrez, très impressionnant. Il écrit des visites au Saint-Sacrement. Bon, très simple, vous voyez, très pédagogique, très populaire, c'est pour le bon peuple de Dieu, pour aider les gens à vivre l'adoration du Saint-Sacrement. Ben, tenez-vous bien, ça a été édité plus de 2000 fois. Vous imaginez un peu plus de 2000 éditions de ces visites au Saint-Sacrement. La pratique de l'amour de Dieu, là aussi, vous voyez les titres, hein, la pratique de l'amour de Dieu, plus de 500 éditions. La gloire de Marie, 1 000 000 d'éditions. La préparation à la mort, plus de 300. Donc vous voyez, on n'a pas idée aujourd'hui, mais il a été extrêmement populaire, à la fois, je le redis, par son enseignement théologique qui touche les pasteurs, et une fois que les pasteurs sont touchés, ben c'est évidemment leur paroisse, etc., qui sont touchés à leur tour, par ses fils rédemptoristes et par la diffusion extrême de petits ouvrages faciles, enfin facilement diffusés. Donc il a été l'un de ceux qui ont le plus contribué à donner au catholicisme populaire sa physionomie spirituelle. Alors, vous me direz, quid de la spiritualité et de son enseignement spirituel? Bon, d'abord, c'est très traditionnel. Je vous redis, hein, le XVIIIe siècle, ce n'est pas un siècle d'innovation, ce n'est pas un siècle de créativité. Vous n'avez pas les grands génies spirituels du XVIe. Bon. Donc, c'est traditionnel. C'est dans des ouvrages de vulgarisation qu'on va le trouver, ou alors dans les ouvrages à l'usage des confesseurs. Et c'est là, par exemple, qu'il parle, qu'il évoque abondamment la direction spirituelle. Et là, on voit tout son enseignement spirituel. Et puis aussi sur l'oraison. Mais en même temps, il n'y a pas de traité systématique de théologie spirituelle de sa part. On peut dire, alors l'image a été utilisée, qu'il est, d'une certaine façon, pour l'Italie et les régions qui parlent italien, un peu un équivalent de saint François de Sales, vous voyez. Un peu ce même... Saint François de Sales, bon, c'est pas révolutionnaire, il prend ce qu'il a reçu d'autres, et en même temps, il sait l'exprimer d'une manière riche d'abord, et puis facilement abordable, facilement lisible par des gens très nombreux. Là où les jansénistes découragent les fidèles en leur présentant un idéal chrétien inaccessible, et du coup, chez certains, provoque le relâchement, parce que quand vous mettez la barre très haut, bah, les gens se découragent et du coup vivent n'importe quoi. Saint Alphonse, lui, rappelle la vocation universelle à la sainteté. Je le cite. « Dieu veut que tous les hommes soient saints, chacun selon son état. » Tiens, on retrouve un peu quelque chose de Saint François de Sales. Hein. « Chacun selon son état, le religieux comme religieux, le séculier comme séculier, le prêtre comme prêtre, le marié comme marié, le marchand comme marchand. » Si la crainte, déplore-t-il, est le chemin le plus fréquemment emprunté par les âmes pour arriver à l'amour de Dieu, elle n'a pas de raison d'être en elle-même. Donc, vous voyez, ça peut être un chemin, bon, ben, pour certains c'est le chemin, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas un en soi. C'est seulement en l'amour de Dieu que consiste la sainteté. Et là, Saint Alphonse est intarissable pour exciter ses auditeurs et ses lecteurs à la confiance envers Dieu, hein, la confiance au Christ, rédempteur et ami des hommes. Et ça, il va écrire, et on comprend avec le contexte. « Beaucoup, écrit-il, s'adonnent à diverses dévotions et négligent celle-ci. » Alors celle-ci, c'est au singulier, dévotion évidemment au Christ. « Beaucoup s'adonnent à diverses dévotions et négligent celle-ci. Tant de prédicateurs et de confesseurs parlent si peu de l'amour envers Jésus-Christ, la principale ou plutôt l'unique dévotion d'un chrétien. Cette négligence a des suites déplorables, car si les âmes font peu de progrès dans la pratique des vertus et continuent de croupir dans les mêmes défauts, c'est qu'elles s'appliquent peu et sont peu exhortées à aimer Jésus-Christ. » Bon, là, je crois que c'est quand même un aperçu, évidemment, hein, il faudra en parler des heures, mais vous voyez qu'on est centré, il recentre sur l'essentiel, à la fois l'annonce que le Christ est l'ami des hommes, qu'il est vraiment le rédempteur donné aux hommes, et que, finalement, toute la vie chrétienne, elle est finalisée par l'amour du Christ. Alors, je vous ai dit que son enseignement était pratique, affectif, en ce sens-là, vous voyez, sans sentimentalisme, et aussi ascétique. Et de fait, il parle de l'effort de l'âme. Donc là, c'est très traditionnel, détachement des créatures, union à Dieu. J'ai un problème, là. Bon, enfin bref. Voilà, donc là, l'union à Dieu qui doit mener à la sainte indifférence, et on retrouve donc à l'abandon de soi à Dieu, à l'obéissance d'amour, etc., etc. Et Saint Alphonse, à nouveau, vous voyez, va promouvoir l'oraison mentale. Vous voyez, c'est un homme qui reprend tout ce qui a été le legs des siècles précédents et qui le redonne avec force pour ce XVIIIe siècle, qui oublie l'oraison mentale, qui est ébranlé par le jansénisme, qui est ébranlé par les Lumières, etc. Alors en même temps, c'est un homme, voilà, ça c'est plutôt au niveau de son style, il affectionne des pensées frappantes, des exhortations, des prières, des paroles d'action en un mot. C'est en ce sens qu'il est, vous voyez, très, un peu le seul prédicateur populaire qui, par écrit, quoi. Dans ses livres, on apprend, ou plutôt on s'exerce, on s'entraîne à prier, à vouloir, à aimer. Vous trouvez ça dans le dictionnaire de spiritualité, un article à Fons de Ligori par le père Liévin. Alors, je vous ai mis un de ses contemporains, saint Paul de la Croix. Vous voyez, on n'est pas à 15 ans d'écart, qui est moins célèbre, mais qui est peut-être plus que saint Alphonse, un maître original de mystique. Alors voilà, nous quittons un peu le XVIIIe siècle et nous allons passer, avec la Révolution française, hein, je prends l'ensemble, dans le XIXe siècle. Alors, le XIXe siècle, dans le plan que vous avez, vous verrez, j'ai mis, bon, c'est discutable, hein, mais enfin quand même, j'ai mis XIXe siècle, siècle du Sacré-Cœur et de Notre-Dame. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait juste, on pourrait dire, on pourrait l'appeler aussi le siècle des Trois Blancheurs. Ça vous dit quelque chose, les Trois Blancheurs ?
Le songe de Don Bosco.
Alors, les Trois Blancheurs, c'est...
Le songe de Don Bosco, il y a eu un songe. Hein.
Oui, mais l'Immaculée Conception, l'Eucharistie et le Pape. Hein, c'est le siècle, on va le voir, de l'Immaculée Conception, évidemment, proclamation du dogme, plus tard, mais c'est le siècle de Lourdes. Enfin non, c'est le 19e, non, pardon, la proclamation du dogme, confirmée d'une certaine façon par les apparitions de Lourdes. C'est le grand siècle de l'ultramontanisme. Et c'est un siècle qui va retrouver très fortement la piété eucharistique. Donc, vous voyez, on peut dire siècle du Sacré-Cœur de Notre-Dame ou le siècle des Trois Blancheurs, si vous voulez. C'est... Alors, un mot quand même, un mot sur une réalité très intéressante, c'est les martyrs. Les martyrs. Dans la période dans laquelle je vais vous parler, les martyrs sont à nouveau très nombreux. Vous avez d'abord les martyrs d'outre-mer, ceux du Vietnam, ceux de la Corée. Voilà, c'est exactement dans la période qu'on est en train de voir.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le siècle des missions
aussi? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, d'une certaine façon, on en parle maintenant parce que c'est. Donc, le siècle. Enfin, en fait, ça commence un peu plus tôt. Hein, parce qu'il faudrait parler au 17e, 18e, tu as la mission, par exemple, en Amérique du Nord. Hein, les martyrs, par exemple, les martyrs jésuites. Du Québec, Isaac Jogues et ses compagnons, bon. Mais c'est le début de la mission en Asie du Sud-Est. Donc Vietnam, Corée, avec les prêtres des missions étrangères, avec les jésuites à nouveau, avec des ordres plus anciens, franciscains, dominicains, etc. Bon. Vietnam, Corée, Chine, autres pays de mission lointaine. Alors si vous avez l'occasion d'aller à Paris, il faut vraiment, vraiment visiter la salle des martyrs aux missions étrangères de Paris, rue du Bac. C'est vraiment à visiter, d'autant qu'elle a été complètement refaite. C'est très beau, très impressionnant, très très beau témoignage. Bon. N'oublions pas non plus, et certains d'entre vous sont bien placés pour le savoir, les martyrs de Madagascar. Hein ? N'oublions pas non plus les martyrs d'Afrique de la nouvelle vague évangélisatrice en Afrique. Il y a eu plusieurs vagues. Une qui a commencé quasiment juste après la mort du Christ, et puis ensuite avec l'Afrique du Nord, et puis là, c'est l'Afrique du Moyen. Bon. Mais tous ces martyrs, en un sens, n'étonnent pas. Ce n'est pas étonnant. Ce qui est très étonnant, et la grande nouveauté, c'est des martyrs vivant en terre chrétienne. Persécutés et mis à mort, eux aussi, en haine du nom du Christ, mais le paradoxe, c'est qu'ils sont mis à mort en haine du Christ par des baptisés. Et là, on arrive donc au drame de la Révolution française. Alors, je les évoque très très rapidement, hein. Il faudrait joindre les très nombreux confesseurs de la foi. Donc, Je ne vais pas, si vous voulez, développer, mais je crois que c'est important de les avoir en mémoire. Donc maintenant, tournons-nous vraiment vers le 19e siècle. Vous savez peut-être que le 19e siècle n'a pas très bonne réputation au plan religieux. Il laisse de lui un peu une image Saint-Sulpice, d'une piété romantique, un peu mièvre, d'une église trop cléricale. L'église du 19e siècle, on la charge un peu de tous les péchés. Évidemment, comme on a fait de Vatican II une rupture avec tout ce qui précédait, alors évidemment ce qui précède apparaît comme très discrété, tous les défauts. Donc, on dit que c'est une église trop cléricale, on lui reproche de s'être désintéressé de la classe ouvrière, de sa situation misérable, on lui reproche d'être une église qui n'a rien compris à la liberté, d'une église de pape réactionnaire, allergique aux idéaux de la République, aux idéaux démocratiques, bref, comme si cette église du 19e siècle avait loupé tous les rendez-vous de l'histoire. Et on rajoute, pour faire bonne mesure, et ce n'est pas tout à fait faux, que la littérature et l'art religieux de ce siècle n'ont quasiment rien produit de remarquable. Ça, c'est vrai. Vous avez très peu d'œuvres de musique religieuse, d'architecture religieuse, d'art religieux, de littérature religieuse. Il n'y a pas rien, évidemment, mais de choses vraiment remarquables. Vous n'avez pas un équivalent de l'art roman, de l'art gothique, de l'art baroque. Vous n'avez pas
un très grand.
Oui.
Par contre, point de vue des ornements liturgiques, c'est une nouveauté. Parce que jusqu'à cette époque, il n'y avait pas d'ornement spécifique. Enfin, les tissus, tout ce qui est passementerie, tout ça, il y a un art propre qui se développe, qui
est l'art
liturgique, oui, qui n'existait pas avant, de façon comme ça. Avant, on prenait des robes de duchesse qu'on retaillait en chasuble. Et à partir du 19e, on tisse des motifs spécifiquement religieux avec l'industrie.
Voilà, très intéressant, vous voyez.
La passementerie, c'est un domaine qui...
Très bien.
Oui,
voilà, l'orfèvrerie aussi.
Tout ce qui est
liturgique,
tout ce qui
est... C'est, alors effectivement, c'est, je dirais, les arts immédiats de l'autel. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas sans valeur. Des arts immédiats de l'autel. Et en même temps... Oui, non, c'est vrai. Oui, c'est juste. Donc, vous voyez, je corrige mon... Mais, de toute façon, je voulais corriger ce jugement. Vous comprenez bien que si j'ai commencé par ça, c'est pour dire que c'est quand même très injuste, dans la mesure où, d'abord, cette Église a été capable de se relever courageusement et avec une vigueur étonnante de près de 20 siècles de persécution. Alors, quand je dis 20 siècles de persécution, il faut nuancer. Il y a 8 années vraiment de persécution très forte. En gros, de 90 à 97. Et un paroxysme, 93, 94... Bon, 95, paroxysme de la persécution. Mais ça a continué aussi avec Napoléon. Alors, pas sous la même forme, il y a eu le concordat qui a été signé, mais il ne faut pas ignorer non plus que Napoléon, par exemple, a fait prisonnier le pape. Alors, c'est quand même une forme de persécution, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a quand même... Et cette Église, vous voyez, qui a été vraiment très ébranlée, qui a perdu, alors dans certains pays, quantité de... Les vocations, ça a été saigné à blanc. Il n'y a pas eu d'ordination pendant peut-être une décennie dans bien des endroits. Tout a été désorganisé. L'Église a été, alors dans un pays comme la France, complètement privée de tous ses revenus. Elle a tout perdu. Alors, elle a retrouvé ensuite, avec le Concordat, certaines choses, mais enfin, pas du tout dans la même ampleur. Et alors, pendant des décennies, on va se méfier beaucoup des moines, y compris quand la royauté va être restaurée. Il y a les idées des Lumières qui continuent à circuler. Et même dans la monarchie, alors moins sous Charles X, mais avec Louis XVIII et ensuite Louis-Philippe, on se méfie beaucoup, beaucoup des moines. Donc on les encourage pas, et du reste, comme tout a été détruit, c'est très difficile de repartir. Donc vous voyez, tout ça, il faut l'avoir en tête. Oui. Et
finalement, pendant tout le 19e siècle, on a une volonté du pouvoir politique de contrôler l'Église, finalement.
Alors, ça, c'est vrai aussi, volonté très forte de contrôler l'Église avec quand même, c'est là où maintenant il faut commencer à penser l'Église universelle. Et il y a, vous avez des situations très très différentes. Dans des pays comme des pays traditionnellement catholiques, comme l'Espagne, comme la France, bon, vous avez encore cette vieille tendance gallicane, extrêmement forte, gallicane ou régalienne, régaliste en Espagne, où vraiment le pouvoir veut vraiment maîtriser l'Église. Alors l'Église reçoit des aides financières, etc., mais c'est contre une surveillance très tatillonne. Et puis, vous avez un pays comme les États-Unis d'Amérique, où la situation est complètement différente. Où, aux États-Unis d'Amérique, c'est simple, séparation complète. Une Église complètement libre, mais sans aucun soutien non plus, mais totalement libre. Alors, vous voyez, c'est des modèles différents, très différents, qui, évidemment, sont en train de se mettre en place. Puis vous avez toute une gamme, alors là il faudrait prendre chaque pays les uns après les autres, et vous avez encore d'autres pays, des pays évidemment de mission, où les missionnaires sont parfois confrontés à la persécution, dans d'autres cas sont plus ou moins tolérés, là aussi très difficile. Tolérés par exemple quand c'est des pays de mission, mais d'un pays de tradition protestante. Pensez aux missions catholiques dans des pays dépendants de la colonisation britannique, par exemple. Bon. Toutes ces situations se retrouvent. Alors, donc...
Le cas, par exemple, de l'Angleterre,
ouais.
Où c'est l'anglicanisme,
ouais.
Et quelle a été l'influence du catholicisme?
En Angleterre même ?
Oui, en Angleterre même.
Alors, en Angleterre même, ça a été un des fruits inattendus de la persécution de la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en Angleterre, vous savez, il y avait jusqu'à la fin du XVIIIe, hein, une très forte réticence, et plus que ça, il y a eu quantité de martyrs au XVIe, XVIIe, siècle en Angleterre, de prêtres qui tout simplement étaient partis évangéliser ou soutenir clandestinement, hein, parce qu'ils n'étaient pas tolérés, et qui l'ont payé de leur vie. Et l'Angleterre est restée très très longtemps, bon, c'est pas tout à fait dans certaines franges de la population ça demeure, mais très anti-papiste. Et ce qui va changer beaucoup de choses, c'est la Révolution française. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de prêtres émigrés qui vont quitter la France, qui vont arriver en Angleterre, où ils vont être accueillis comme des réfugiés politiques, d'une certaine façon. Ils vont être accueillis comme des prêtres d'une extrême pauvreté, ils ont tout perdu. Des prêtres qui, dans leur malheur, vont un peu émouvoir les Anglais. Et du coup, le regard des Anglais sur le catholicisme va beaucoup évoluer pendant ces années-là. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est qu'avec les progrès de la tolérance et les progrès des idées démocratiques, des idées des Lumières, etc., etc., ça joue aussi dans le bon sens. Et que, petit à petit, la législation anticatholique va tomber. Et autre élément, c'est l'arrivée de l'émigration irlandaise, très très importante, en Angleterre, qui a un effet une sorte d'effet boomerang, si vous voulez, du fait que l'Angleterre refuse d'accorder l'autonomie à l'Irlande, et du coup les Irlandais sont chez eux en Angleterre, et donc viennent pour trouver du travail, et donc vous avez un gros apport de population catholique, alors extrêmement pauvre évidemment, hein, très misérable, avec un niveau culturel très bas, mais n'empêche, tout d'un coup le nombre des catholiques augmente beaucoup, et puis je le redis, c'est très important, le regard des Anglais sur le catholicisme évolue un peu.
C'est dans ce contexte-là que Newman est venu.
Alors, c'est un peu plus tard, Newman. Mais effectivement, Newman... Alors, Newman, c'est encore une nouveauté, mais on va le voir un peu plus loin, avec le mouvement d'Oxford. Bon, alors... Donc, premier élément, vous voyez, une Église qui a été capable, on va le voir, de se relever. Et ça, c'est quand même important. ou pour le dire autrement, cette Église qu'on a tendance à regarder avec sévérité, il ne faut pas oublier qu'elle avait beaucoup d'handicaps. Elle était très handicapée, elle avait perdu beaucoup de choses, il fallait reconstruire. Il faut imaginer, si vous voulez, que dans quantité de diocèses, alors particulièrement en France, mais c'est vrai aussi ailleurs, la vie religieuse complètement désorganisée ou anéantie. Quand je dis la vie religieuse, c'est les religieux. Anéanti, désorganisé, plus rien. Et pour ce qui est du clergé séculier, eh bien, on traînait 15 ans sans ordination. Des prêtres qui, beaucoup, avaient quitté le sacerdoce, soit émigré, soit vieilli, tout simplement. Certains, beaucoup, avaient été martyrs aussi. Donc, tout d'un coup, la population cléricale, enfin, l'encadrement ecclésiastique, se retrouve extrêmement réduit. Autre élément, c'est que vous avez des populations qui, pour certaines, n'ont plus été catéchisées pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans quasiment. Pareil, plus de mariage, plus de baptême, plus de pendant très long laps de temps. Donc tout ça, il a fallu le reconstruire. Et de fait, l'Église du 19e a été capable de le faire. Donc ça montre qu'elle avait quand même en elle des ressources réelles. Bon, alors, ce qui a aidé un petit peu quand même, c'est aussi le climat culturel. Au début du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle le romantisme, l'âge du romantisme. Alors, c'est un phénomène européen, vous avez des romantismes en Allemagne, évidemment, Goethe, le Werther de Goethe, bon... avoir lu ça, si vous voulez connaître un peu la culture européenne. Donc, romantisme en Allemagne, romantisme en France, romantisme en Italie, romantisme en Autriche, etc. Bon. Et ça change un petit peu, vous voyez, c'est un climat plus propice à la spiritualité et au christianisme. Exemple de ça, Chateaubriand qui écrit Le génie du christianisme en 1802, si je ne me trompe, ou 1803. Oui, 1802. Donc le rationalisme des Lumières est en train, voyez, un petit peu de reculer chez les élites. Dans les campagnes, l'Église mène à bien la réévangélisation des campagnes, des élites. Donc non seulement l'Église, voyez, en Europe travaille à réévangéliser, mais elle a envoyé aussi quantité de missionnaires pendant tout ce siècle. C'est un siècle extraordinaire du point de vue des missions au loin. L'Amérique latine a toujours besoin de missionnaires européens. Et puis, c'est évidemment la grande épopée missionnaire, aussi bien en Afrique qu'en Asie du Sud-Est. Enfin, Asie du Sud-Est et plus, Chine, Vietnam, Corée, etc. Et dernier élément, c'est le 19e, l'âge d'or des congrégations religieuses. Mais comme nouvelle fondation, vous voyez, c'est l'ancienne vie religieuse va petit à petit reprendre. On va retrouver petit à petit des carmélites, des visitandines, petit à petit des bénédictins, petit à petit des dominicains, petit à petit, bon, on va retrouver les ordres anciens. Mais ce qui est tout à fait remarquable au XIXe siècle, et c'est une nouveauté, ce sont les nouvelles congrégations spécialement féminines, des congrégations actives. La religieuse, la bonne sœur, comme on l'appelait, la bonne sœur du XIXe et du XXe siècle, ça apparaît au XIXe. Donc celle qui est éducatrice dans les écoles, la religieuse hospitalière, la religieuse, vous voyez, qui est sur le front social, c'est une nouveauté du XIXe siècle. Et on a des témoignages très intéressants. Le restaurateur de Solesmes, Don Guéranger, qui je crois que c'est lui. Don Guéranger qui se rend à Rome pour faire reconnaître donc la renaissance de la vie bénédictine en France. Et qui, arrivant à Rome, on lui répond, écoutez, de France, c'est bien simple, il nous arrive tous les jours de nouvelles demandes de fondation, ça n'arrête pas. Alors, c'est pas tout à fait en ces termes-là, mais l'idée, c'est vraiment ça. Sans cesse des fondations. Alors, la France était peut-être le pays au 19e où il y a le plus de fondations, mais c'est vrai, dans une mesure quasiment semblable, en Italie, et aussi, avec un petit décalage, Allemagne, Autriche, Belgique actuelle, etc. etc. Alors, vous avez aussi quelque chose qui est très touchant, c'est le succès de l'œuvre de Pauline Jaricot. Vous avez entendu parler de Pauline Jaricot ? Non ?
Ah oui.
Une femme tout à fait remarquable, et qui est à l'origine de la Société pour la propagation de la foi. Alors, c'est quoi le but de cette société ? Recueillir des fonds pour les missions. Et ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle n'a pas été sonnée seulement chez les riches, mais elle propose, et c'était très très bien organisé, donc il y avait des groupements de personnes qui étaient regroupées dans des regroupements plus importants, etc. Et c'est, l'idée, c'est que chacun amène un sou. Donc même des gens très simples qui avaient des revenus très modiques, un sou, rien qu'un sou. Et du coup, les gouttes d'eau ont fait des petits ruisselets, les petits ruisselets ont fait des gros ruisseaux, et les gros ruisseaux ont fait des fleuves. Et la Société pour la propagation de la foi a recueilli beaucoup. Et vous voyez, c'est un indicateur là aussi très intéressant. Quand on voit les sommes considérables qu'elle a recueillies et qui ont permis comme ça de financer les missions au loin, ça montre, vous voyez, dans le peuple chrétien, que cette intention-là mobilisait dans des proportions extrêmement larges. Donc vous voyez, il y a un sens ecclésial qui a été comme ça retrouvé par cette Église du XIXe siècle, après, donc, je le redis, la parenthèse douloureuse la Révolution. Vous voyez, l'enjeu missionnaire, l'enjeu ecclésial, c'était très bien saisi, hein, les gens en étaient très conscients. Alors, c'est aussi l'époque, hein, ce XIXe dont on dit tant de mal, c'est quand même l'époque où naît la réflexion sociale, la doctrine sociale de l'Église, le mouvement social chrétien naît à cette époque. Alors là, le grand pays pionnier, c'est l'Allemagne, avec Mgr von Kotteler, et puis j'ai un trou de mémoire. Non, c'est l'inventeur de la pius verein. Kolping. Donc, c'est ça qui est, retenez ça, la restauration, entre guillemets, la restauration religieuse du XIXe siècle a été beaucoup plus qu'un simple retour, ou un retour à la situation d'avant. D'abord, ça n'a pas été un retour à la situation d'avant. Ça a été plutôt une renaissance, une nouvelle naissance, avec aussi un véritable enrichissement. Donc c'est pas, le mot restauration ne convient pas. Il y a eu un essai de restauration politique peut-être, mais au plan religieux, c'était un nouvel essor, un nouveau départ, autre chose, une nouvelle Église, si vous voulez. Donc des pratiques traditionnelles, ça c'est vrai, hein, de la vie chrétienne, à nouveau à l'honneur, mais avec une ardeur renouvelée, c'est avec une ardeur renouvelée qu'elles sont suivies. Et puis, c'est une période qui a donné à l'Église de très belles et très nombreuses figures de sainteté. Alors, malgré ça, je le dis aussi en contrepoint, ça n'est pas un siècle, je mets Thérèse de Lisieux à part, hein, parce que c'est vraiment l'extrême fin du 19e, donc en mettant Thérèse de Lisieux à part, vous n'avez pas, au plan de la spiritualité, hein, donc de notre sujet, vous n'avez pas de très grandes figures, de très grands auteurs, là encore. Vous avez un peuple chrétien qui retrouve la vie spirituelle, mais sous les formes traditionnelles, avec le legs des années précédentes. Alors, un petit mot de la sainteté sacerdotale qui a pris très grande place. Nombreux sont les prêtres dévoués à l'apostolat et fondateurs. Alors, je vous ai mis quelques noms. Le père Seiler, Joseph Cottolengo, Joseph Liberman, Michel Garicoast, je ne sais pas comment on prononce parce que c'est un basque, alors, non, basque, béarnais, je ne sais pas. Saint-Julien Aymar, le père Dalzon, Saint-Jean Bosco, vous voyez, beaucoup de très belles figures, avec chacune un charisme fort. Vous avez des fondateurs, vous avez des grands pédagogues, évidemment, avec Saint-Jean Bosco. Vous avez des publicistes, le père Dalzon, le père Jean Bosco, Saint-Jean Bosco, qui comprennent très tôt l'importance de l'imprimer pour rejoindre les milieux populaires. Et puis, je vais le retrouver, je vais terminer avec lui, John Henry Newman, mort en 1890, qu'on peut compter, lui, comme un authentique spirituel catholique. Authentique spirituel catholique, même s'il est plus connu comme théologien. Et même si son itinéraire spirituel débute dans l'anglicanisme, où il a été l'un des principaux animateurs du mouvement d'Oxford. Ce qui est, je crois, très très impressionnant avec lui, peut-être on va terminer là-dessus, c'est son obéissance à ses motions intérieures, vous voyez, et sa quête de la vérité. Ça, c'est très très beau, très bel exemple. Vous voyez. La quête de la vérité, et vous savez tout ce qui lui en a coûté de quitter l'anglicanisme, combien ça a été vraiment... Il ne l'a fait que parce qu'il avait la conviction que le Seigneur l'appelait là et que la vérité était dans le catholicisme. Mais ça lui a coûté beaucoup. Et ensuite, il a eu aussi beaucoup de... un itinéraire douloureux. Bon, écoutez, c'est l'heure, donc on va laisser pour la suite. Donc la prochaine fois, écoutez, je pense qu'on va faire le 19e. On fera aussi Thérèse de Lisieux. On aura le temps de le faire. Et puis, ben, on commencera le 20e. Donc, normalement, il nous reste deux cours, hein, avec ce.